À l'issue de son congrès qui s'est tenu ce week-end à Marais, l'Union calédonienne a renouvelé sa confiance en Emmanuel Tchibaou qui reste à la tête du parti, l'UC qui réaffirme dans un même temps son rejet de l'accord de Bougival. Objectif renouveau pour la base aérienne 186 de Tontouta d'ici 2031. Dans les prochaines années, la base accueillera davantage d'appareils, notamment l'A400M qui pourrait être directement entretenu sur le territoire. Les Calédoniens toujours aussi généreux. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre ce week-end, des quêtes ont été réalisées devant les centres commerciaux et les églises. L'actualité dans le Pacifique, l'Australie célèbre aujourd'hui sa fête nationale, une date qui commémore l'arrivée de la première flotte britannique à Sydney Cove. C'était le 26 janvier 1788. Enfin, dans notre page sport, nous parlerons en tennis et la fin des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Chez les dames, duel 100% américain. Jessica Pegula s'impose face à Madison Keys, tenante du titre. Côté homme, nous aurons droit ce soir à un match entre deux Italiens, Luciano Darderi et le tenant du titre, Yannick Sinner. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, un commerçant agressé à l'arme blanche à Koumac ce matin. Un homme est entré dans un magasin d'électronique, de téléphonie et d'équipement informatique. Il a tenté de dérober un article, puis a pris la fuite. Mais le fils du commerçant l'a poursuivi. C'est alors que le voleur s'est retourné et a porté un coup de couteau dans le ventre. La victime, qui a perdu beaucoup de sang, a été transportée à l'hôpital de Koné. Ses jours ne sont pas en danger. Quant à l'agresseur, il a été interpellé et placé en garde à vue. Le 56e congrès de l'Union calédonienne s'est clôturé très tôt ce matin, aux alentours de 4 heures à la tribu de Penelo à Marais. Il a reconduit le bureau élu il y a un peu plus d'un an. Elisabeth Noir, il a confirmé Emmanuel Tchibaou à la présidence de l'UC.
Une élection acquise au second tour de scrutin et qui n'a rien d'un plébiscite pour le député de la deuxième circonscription qui occupe la présidence depuis novembre 2024. Au premier tour, il y avait plusieurs candidats, dont le président sortant, mais aussi Jacques Lallier, l'ancien président de la province des Îles, Gaston Nédénon, le premier adjoint au maire de Canala, ou encore l'avocate Nadine Pidgeot. Au deuxième tour de scrutin, Emmanuel Tchibaou était seul en lice après le retrait de ses concurrents, mais il n'a été élu qu'avec 139 voix sur 200. Il y a eu 58 bulletins blancs et 3 bulletins nuls. Tôt ce matin, Emmanuel Tchibaou est revenu au micro de Kéine Dabouakou sur les priorités de cette nouvelle mandature.
Les priorités, c'est de faire le point sur l'avancée de notre engagement pour accéder à la pleine souveraineté à échéance 2025-2030, qui est pour nous la quatrième décennie de l'éradication du colonialisme. Il y a certainement eu une phase de discussion de février qui nous a amené pour le FLNKS jusqu'à juillet. Aujourd'hui, encore une fois, je dirais qu'avec les dernières échéances qui se sont tenues à Paris, la semaine dernière, aujourd'hui, on se doit de s'avancer et de contester cet accord qui a été signé sans la notion même de consensus qui avait été négocié à Paris lors du report des élections provinciales. Rappeler que c'est la condition de stabilité de tout accord politique dans notre pays.
Des propos qui rejoignent le discours très offensif prononcé en ouverture du congrès par Emmanuel Tchibaou. Il avait affirmé que l'heure est à la lutte et au combat. L'Union calédonienne réaffirme sans surprise son opposition à l'accord de Bougival et conteste la réunion qui s'est tenue la semaine dernière à Paris. Elle va tenter de faire achopper le processus institutionnel en effectuant, explique Emmanuel Tchibaou, un travail auprès des parlementaires.
À partir du moment où l'État décide d'engager la discussion sans le FLNKS, sans le mouvement de libération et sans l'Union calédonienne, le processus législatif constitutionnel est engagé à Paris et c'est les arguments qu'il faudra faire valoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, en portant notamment l'attention des parlementaires sur un certain nombre de dispositions qui, pour nous, sont contraires aux engagements pris par l'État de 88, quand on estime que l'hyperprovincialisation a été mise en œuvre dans cet accord politique, dans ce projet d'accord politique. C'est cela que l'on a contesté dans le rejet de Bougival. Et c'est sur cet aspect-là qu'on souhaite revenir aujourd'hui dans les discussions, pour rappeler les engagements qui ont été ceux de la France d'accompagner la Nouvelle-Calédonie vers la trajectoire d'émancipation, qui est pour nous l'indépendance.
Des propos recueillis tôt ce matin sur fond de chant de clôture de ce 56e congrès. L'Union calédonienne affirme également qu'elle va s'engager dans les échéances électorales, notamment dans les élections municipales et particulièrement dans l'agglomération de Nouméa. Le 50e congrès de l'UC a par ailleurs reconduit le bureau qui avait été élu en novembre 2024 à la tribu d'Omnia à Canala. Emmanuel Chibaou reste donc président. Les deux vice-présidents sont Pierre Chanel Toutougoro et Michael Forest. Christian Théin reste commissaire général et Hervé Théin Taouva, commissaire général adjoint. Dominique Fauchy conserve son poste de secrétaire général. Seul petit changement avec une inversion, Romualdo Pidgeot devient premier secrétaire général au détriment d'Amantine Darras qui devient deuxième secrétaire général. Les travaux sont terminés très tôt ce matin, nous le disions, et on ne connaît pas encore les motions qui ont été adoptées par ce 56e congrès de l'UC.
Le projet de loi constitutionnelle est issu de l'accord de Bougival. Il prévoit le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. En parallèle, l'association Un cœur, une voix a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour demander l'ouverture du corps électoral provincial pour la prochaine mandature en cas de nouveau blocage du processus institutionnel. Pour en parler, nous recevrons demain matin à 7h30, Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix. Les élections municipales, Florence Rolland écrit aux habitants de la Foix. Le maire sortant annonce qu'elle est candidate à sa succession et qu'elle conduira une liste d'union pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Son courrier est d'ailleurs co-signé par Lionel Brinon pour les loyalistes et Jean-Paul Parois pour le Rassemblement. Parmi les priorités, Florence Rolland met en avant la sécurité, la dynamique économique ou encore la poursuite des investissements d'équipements essentiels.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et voici notre question du jour. Les élections municipales sont-elles, selon vous, des élections politiques? Si vous pensez qu'elles le sont, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Être capable d'accueillir des avions toujours plus gros, c'est l'un des objectifs de la base aérienne 186 à Tontouta. Des travaux vont être engagés pour accueillir d'ici 2031 de nouveaux avions, de nouveaux hélicoptères, mais aussi renforcer l'influence de la France dans le Pacifique. Écoutez le colonel Alban Jean Grandpierre, il est commandant de la base aérienne 186.
On s'est rendu compte avec l'exercice Croix du Sud, les changements géopolitiques de la région, que la base aérienne devait être en capacité d'accueillir des avions toujours plus gros. On a un parking qui paraît très gros, mais qui va avoir besoin de grandir encore pour accueillir plus d'avions, notamment les renforts, comme on l'a vu, les avions américains, les avions australiens, néo-zélandais, et de pouvoir les accueillir du côté militaire pour ne pas saturer l'aéroport civil. Donc on va avoir plusieurs phases de travaux avec une augmentation du parking, avec également des nouveaux avions qui vont arriver, de surveillance maritime qui vont pouvoir rester plus longtemps en l'air, mieux voir avec de nouveaux capteurs, avec des nouveaux hélicoptères qui vont être un peu plus gros, donc ils vont pouvoir aller un peu plus loin, prendre plus de personnes. Et à l'horizon 2031, un A400M qui va avoir son hangar de maintenance en Nouvelle-Calédonie.
600 millions de francs pacifiques pour les nouveaux hangars pouvant accueillir des Falcon ou des hélicoptères Caracal. 1,5 milliard pour l'agrandissement de la piste. Mais le plus gros chantier reste celui du hangar de maintenance de l'A400M. Un projet à près de 3 milliards de francs pour lequel les entreprises calédoniennes pourront participer via un appel d'offres. Actuellement, les appareils les plus imposants qu'accueille la base aérienne de manière permanente sont les deux CASA. Mais d'ici 2031, cela pourrait donc être l'A400M, un avion aux capacités bien supérieures.
Voilà, pour donner un ordre d'idée, le CASA va mettre 5h30 pour aller à Wallis. L'A400M est 3h30. Et donc le CASA peut embarquer un peu moins de 4 tonnes pour aller à Wallis. L'A400M est plutôt sur 40 tonnes. Donc on est sur d'autres capacités. Quand on a besoin d'envoyer un hélicoptère, par exemple à Wallis, le CASA n'est pas assez gros pour pouvoir le prendre. L'A400M peut le faire. Ça permet de faire d'autres choses que le CASA. L'A400M ne sera pas toujours en Nouvelle-Calédonie, mais on pourra faire des entretiens pour pouvoir lui donner du potentiel. Il ira renforcer la Polynésie. Il pourra travailler également avec des partenaires étrangers, Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie. Voilà, donc rayonner vraiment dans tout le Pacifique. Et le CASA, lui, fera le même job qu'aujourd'hui sur l'archipel.
Cette semaine, l'avion militaire est justement en Nouvelle-Calédonie pour livrer à la base aérienne un nouvel hélicoptère Puma. L'occasion pour l'équipage d'effectuer quelques exercices, car l'une des missions de l'A400M est d'assister les populations, comme ce fut le cas lors des émeutes de mai 2024, où il a réapprovisionné la Calédonie, notamment en médicaments. Aujourd'hui, la mission était le sauvetage d'un homme en mer avec le concours de la SNSM.
Ce vol va durer environ 2 heures de temps. Ce sera un vol d'entraînement, de recherche et sauvetage maritime.
Et un bateau de la SNSM va partir du port pour mettre un homme à la mer. Et l'objectif de l'équipage va être de retrouver cet homme à la mer et de lui envoyer un kit de survie avec un canot de sauvetage, des vivres, de l'eau. Toute la difficulté est d'arriver avec un avion qui ne peut pas faire de vol stationnaire à larguer au plus près du naufragé tout ce dont il a besoin. Si on l'envoie trop loin, les courants peuvent rendre inaccessible le canot de sauvetage. Si on l'envoie sur le naufragé, vu comme c'est lourd, ça peut créer des désagréments. Voilà, donc c'est un vol qui est très technique. C'est des équipages de métropole qui viennent et à chaque fois qu'ils viennent, ils mettent à jour leurs données, leurs cartes et toutes les petites particularités de chaque aéroport, de chaque piste. Ça permet une mise à jour des données qu'ils ont, eux, en métropole.
Les projets d'aménagement de la base aérienne doivent, je le rappelle, voir le jour d'ici 2031, c'est-à-dire sur au moins 6 ans. Il y a 2 semaines, le gouvernement a présenté un projet de loi du pays visant à encadrer les opérations aériennes domestiques sur le territoire. Ces nouvelles réglementations concerneraient les exploitants commerciaux d'avions, hélicoptères ou d'ULM. Qu'en pensent les professionnels du secteur ? Nous en discuterons demain midi dans notre magazine citoyen avec Jean-Michel Rio, le gérant de Calédonie Aviation. Gunther Hickman, le gérant de la société Auvol, ou encore Olivier Paul, responsable à Air Paradise. Ils pourront échanger avec un représentant de la direction de l'aviation civile qui sera lui aussi présent. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec ces professionnels de l'aéronautique sur l'état global du secteur en Nouvelle-Calédonie. Une mission sur le logement social et les renouvellements urbains qui débute aujourd'hui au commissariat. Dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale conclu avec l'État, 3 experts nationaux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et de l'Union sociale pour l'habitat sont arrivés sur le territoire. Ils seront en mission jusqu'au 30 janvier. Ils animent depuis ce matin des travaux en atelier collectif avec les principaux acteurs calédoniens impliqués, les représentants des institutions mais aussi les bailleurs sociaux, afin de transmettre les expériences et les outils relatifs au renouvellement urbain et à la refonte du modèle économique du logement. Il est 17h passé de 57 minutes. Première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. A tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Léana Colombo.
Attention au chamboulement sur la route. À Nouméa, des travaux entre le giratoire Alma Meto et l'échangeur de Tina, Jean-François Baudin.
Oui, les travaux débutent aujourd'hui et ils doivent durer 8 mois. La province sud va renforcer la chaussée dans cette zone, ce qui représente une surface d'environ 25 000 m2, et créer une voie verte sur 2 km le long de la VDE. Les travaux prévoient également un réaménagement des bretelles sud de l'échangeur de Tina et la mise en place d'un éclairage public. Alors attention, la circulation va être modifiée pendant la durée du chantier. Le jour, la route sera praticable, mais avec une vitesse abaissée à 50 km/h. En revanche, la nuit, de 20h le soir jusqu'à 5h le lendemain matin, une déviation sera mise en place. Le coût total des travaux s'élève à 670 millions de francs, dont 105 sont pris en charge par l'État.
Et les parkings du parc de la Dumbéa sont fermés temporairement, et ce jusqu'à jeudi inclus, en raison de la fin des travaux du chantier du barrage des poids lourds empruntant les pistes. Par mesure de sécurité, les randonneurs sont invités incités à la vigilance dans le secteur, notamment la branche est du parc de la Dumbéa. La province sud sollicite les artistes plasticiens professionnels. Il s'agit de les solliciter pour une exposition d'art à ciel ouvert qui sera installée dans le parc provincial zoologique et forestier. Elle lance donc un appel à projets dans le cadre des résidences artistiques du PPZF. Les artistes plasticiens professionnels, qu'ils soient seuls ou en collectif, sont invités à visiter le lieu le 6 février prochain. Ils devront ensuite remettre leur dossier au plus tard le 23 février. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la province sud.
RRB, il est 18h.
Ce week-end, c'était la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Sur le territoire, l'Ordre de Malte a organisé tout au long du week-end sa quête annuelle pour faire face à cette maladie qui est toujours présente en Nouvelle-Calédonie. Et Yann Carpentier, le responsable territorial de l'Ordre de Malte, a tenu à remercier les Calédoniens qui ont généreusement donné, malgré le contexte économique compliqué.
Le bilan en soi financier, évidemment, il n'est pas florissant, mais la situation est la situation. Nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ce sera le plus beau de l'affaire. Je voudrais, par votre biais, remercier, parce que malgré la situation économique, malgré les difficultés qu'ils ont au quotidien, eh bien, tous ont eu un geste et surtout des encouragements qui nous ont touchés. De nouveau, je le dis, merci à eux. Parce que du coup, nous voilà mieux armés encore pour se dire, en avant, on va repartir à l'assaut et on va aider à propager, à faire en sorte que ce message passe le plus loin possible.
Nombreux étaient les bénévoles à s'être mobilisés ce week-end devant les centres commerciaux et aux sorties de mai sur l'ensemble de la Calédonie. Et après la quête, il est désormais temps de passer aux actions de terrain. C'est ce à quoi servira l'argent récolté, rappelle Yann Carpentier.
Maintenant, on se déplace de plus en plus loin. Donc, chaque fois qu'on fait des déplacements et qu'on va dans les lieux à circuler, c'est quand même 400 km, 300 km, etc. Donc, des allers-retours, parfois des nuits aussi. Donc, il faut trouver à se loger, il faut se nourrir, etc. Il faut distribuer des flyers. Il y a des panneaux à réaliser pour renseigner tous ceux à qui on fait les présentations. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un coût. Et comme nous, on n'a aucune subvention, on n'est pas aidé du tout. Cet argent sert pour une partie à ce qu'on fait ici. Et puis, pour le reste, l'argent qui n'est pas utilisé ici est envoyé donc en métropole parce que la France soutient 12 léproseries. Ça, ça coûte malheureusement très très cher dans des pays qui sont très pauvres.
En 2025, 4 nouveaux cas de lèpre ont été déclarés en Nouvelle-Calédonie. L'actualité dans le Pacifique et les Australiens qui célèbrent aujourd'hui leur fête nationale. Elle commémore la première arrivée de la première flotte de navires britanniques à Sydney Cove le 26 janvier 1788. Une fête nationale sous une forte chaleur cette année sur une partie de l'île continent. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
À part le survol de certaines grandes villes par des appareils de l'armée de l'air et quelques salves de coups de canon, cette fête nationale n'a été marquée que par de simples prises d'armes. Au traditionnel défilé militaire qu'ils réservent à l'Anzac Day, les Australiens ont préféré les fêtes populaires et les animations gratuites, le tout dans une ambiance bon enfant. C'est ainsi qu'ils ont assisté à des envols de montgolfières, suivi la course des ferries qui sillonnent habituellement le port de Sydney, participer à des barbecues communautaires. Mais de façon générale, ils ont fêté l'événement en famille, raison pour laquelle plages et espaces verts ont été pris d'assaut des potrominés. Près de 25 500 migrants venus de 160 pays ont quant à eux choisi ce 26 janvier pour se faire naturaliser australiens. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Des milliers d'aborigènes auxquels s'étaient mêlés des militants pro-palestiniens ont quant à eux arpenté les rues de plusieurs grandes villes pour demander à ce que le 26 janvier, qu'ils appellent Invasion Day, ne soit plus célébré. 18h passées de 4 minutes, seconde pause avant d'ouvrir notre page sport.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal, le sport avec Léana Colombo.
Et effectivement, on ouvre notre page sport avec du tennis dans la région. Et Léo Fichou, on connaîtra ce soir toutes les affiches des quarts de finale de l'Open d'Australie chez les dames comme chez les hommes.
Et oui Léana, puisque les derniers huitièmes de finale se jouent aujourd'hui à Melbourne. Chez les hommes, d'abord Lorenzo Muzzetti, tête de série numéro 5, a dominé l'américain Tyler Fritz en 3-7, 6-2, 7-5, 6-4. Au prochain tour, l'Italien affrontera Novak Djokovic, le Serbe qualifié sans jouer suite au forfait de Jakub Mencić qui souffre de douleurs abdominales. Ce soir, duel 100% italien en huitième de finale là aussi entre Luciano Darderi et le tenant du titre Yannick Sinner, numéro 2 mondial. Le vainqueur jouera contre le gagnant du match entre l'Américain Ben Shelton et Casper Ruud, le Norvégien. Les autres quarts de finale opposeront Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, à l'Australien Alex de Minaur qui joue à domicile et l'Allemand Alexander Zverev à l'Américain Lerner tient. Chez les dames, duel 100% américain en quart de finale suite au succès de Jessica Pegula sur la tenante du titre Madison Keys et d'Amanda Anisimova sur la chinoise Xinyu Wang. Elena Rybakina, elle, a dominé Elise Mertens en 2-7, c'était cet après-midi. Une victoire donc en 2-7, je le disais, 6-1, 6-3. Elena Rybakina, pardon, qui attend de connaître son adversaire. Ce sera soit la numéro 2 mondiale Iga Świątek, soit l'Australienne Madison Inglis. Pour rappel, les deux premiers quarts de finale verront s'opposer Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, à l'américaine Iva Jovic et puis Coco Gauff à Elina Svitolina.
On passe au sport sur le territoire du football avec le premier rassemblement ce lundi soir de la sélection féminine de Nouvelle-Calédonie. Christelle Wanawe, récemment nommée sélectionneuse par la FCF, a lancé une nouvelle dynamique pour une sélection qui était à l'arrêt depuis les Jeux du Pacifique de 2023. Relancer le football féminin, c'est une des priorités de Steve Laigle, président de la Fédération calédonienne de football.
Une des volontés de notre équipe pour les ambitions de la fédération dans les quatre années à venir, c'était de considérer le football féminin au même titre que le football masculin. Elles ont un vrai potentiel et des vraies chances de qualification. D'ailleurs, ça s'est vu avec les U20 dernièrement. Malheureusement, ça commence aujourd'hui et c'est beaucoup trop tard parce qu'elles n'ont que 3 semaines de préparation. Elles s'envolent fin février, début mars pour les qualifications Coupe du Monde. Donc le staff qui va encadrer ces jeunes filles vont faire ce qu'ils peuvent en 3 semaines. Mais ça va être difficile, mais c'est pas grave. Les filles méritent tout autant que les garçons de participer à ces compétitions. C'est notre vision du football calédonien. On va réinvestir sur le football féminin au même titre que les garçons. Surtout que la FIFA accorde un budget spécial réservé aux filles, donc il va être utilisé exclusivement pour les féminines.
Pour préparer les qualifications océaniennes à la Coupe du Monde 2027 au Brésil, Christelle Wanawe a fait appel à de nombreuses jeunes joueuses. Elles viennent de l'ASAV, de l'AS Magenta, de l'AS Wetch, du Jeju Atlético Club, du Paita FC et du SC Nejeu. Des filles heureuses d'être appelées en sélection.
C'est net de reprendre, ça fait du bien de retoucher le ballon, puis retrouver nos amis des sélections.
Je pense que ça va être compliqué, mais on a une bonne équipe, on a un bon effectif, et je pense que cette compétition, on va l'aborder avec beaucoup de motivation et de compétitivité en tête, et beaucoup de mental aussi. Et on a beaucoup de grandes sœurs qui vont nous accompagner aussi, et qui seront les piliers de cette équipe. Ce sera une compétition qu'on abordera comme toutes les compétitions, avec une bonne mentalité.
Christelle Wanawe, les joueuses de la sélection calédonienne de football défieront le Vanuatu, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée fin février et début mars. Des rencontres de la phase de poule des qualifications océaniennes à la Coupe du Monde. Nous avons parlé également force athlétique dans notre Mac des Sports ce midi. Notre invité était Axel Raymond. Le Calédonien vice-champion du monde master de la discipline se prépare à participer au championnat d'Europe au mois de février sous les couleurs de l'équipe de France. Et il est impatient de se lancer en quête d'un trophée continental.
Je suis très excité de participer au championnat d'Europe. C'est comme les championnats du monde, c'est un rêve.
Et là, justement, affronter les meilleurs Européens, ça va être encore plus beau. Et il faut savoir quand même que là, il y a une pression supplémentaire. Donc, il y a un petit côté encore un petit peu plus excitant. En 2024, je n'avais pas fait les qualifications. Donc, je ne pouvais pas prétendre au championnat d'Europe. J'ai pu prétendre au championnat du monde par repêchage. Et là, avec le titre de champion de France, les records de champion de France, je suis, entre guillemets, on va dire indiscutable pour les championnats d'Europe. Et on sera deux Français dans ma catégorie ou ce championnat.
À l'issue de ces championnats d'Europe, et on y croit, hein, de belles performances de votre part, hein, du côté de la Finlande, on pourra s'attendre pour la force athlétique en Calédonie à d'éventuelles retombées, c'est ce que vous espérez également ?
J'espère, je l'espère beaucoup. Il y a une équipe qui va partir au championnat de France de bras de fer, et derrière ça, je sais qu'il y a les championnats de France junior, les championnats de France open qui se profileront. Malheureusement, avec l'éloignement, tous ces jeunes, ils n'ont pas les moyens de pouvoir partir. Donc, j'espère que ça va mettre encore en lumière la force athlétique et que d'autres partenaires se rapprocheront de la Ligue de Nouvelle-Calédonie pour pouvoir les aider et aider nos athlètes à pouvoir performer au moins au niveau national.
Axel Raymond, notre invité dans le MAC des Sports ce midi. Les championnats d'Europe de force athlétique se dérouleront du 8 au 15 février prochain en Finlande. Il est 18h passé de 11 minutes. On passe tout de suite à la météo.
Socafort Peinture vous présente la météo. Socafort Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socafort Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Pierre ce soir.
Cette nuit, un ciel encore nuageux se maintiendra sur le nord avec quelques averses résiduelles, surtout en début de nuit. Ailleurs, les éclaircies prendront le dessus. Malgré de faibles ondées possibles, remontons sur la pointe sud et l'île des Pins. L'alizé de sud-est faiblira légèrement et soufflera entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales quant à elles évolueront peu, de 18 à 24 degrés, avec un peu plus de fraîcheur sur marée, autour de 17 degrés. Demain matin, quelques ondées isolées circuleront encore aux extrémités de la Grande Terre. Ailleurs, le soleil s'imposera largement, offrant une matinée lumineuse et agréable. Le vent de sud-est restera modéré, entre 10 et 15 nœuds, et se renforcera localement en fin de matinée, atteignant 15 à 20 nœuds. Côté mer, pour nos amis les pêcheurs, elle se rabasse en début de soirée autour de 19h39 et remontera dans la nuit pour atteindre une pleine mer vers 2h avant de redescendre demain matin, avec une nouvelle basse mer attendue vers 7h39. Et côté ciel, la lune sera toujours montante en demi-lune, avec une luminosité d'environ 52,9%.
Ben merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.